Merci Dimitri. Alors c'est vrai, ça n'existe pas. En fait, ça n'existe pas de ce côté-ci du miroir. Donc parce que ma présentation va porter sur Alice au Pays des Merveilles. Et alors déjà, j'ai deux questions. Une pour faire le lien avec la précédente présentation, la précédente midi midi qu'on a eu. Donc d'abord à Daniel. Donc tiens-toi prêt, écoute bien. Où retrouves-tu, Daniel, un certain arrière-goût, d'américanisme dans la manière dont les textes européens envisagent la protection sociale, le welfare, puisque c'était quand même là-dessus que portait le précédent midi. Et aussi une question à Dimitri, puisque je sais qu'il avait écrit sur le cheval de Troie par rapport aux aides d'État et aux compensations de services publics. Voilà, est-ce que pour lui, Pyrrhus a encore gagné? Alors, je voulais quand même dire que je ne parle au nom de personne, tout ce que je dis ne pourra être retenu contre moi. Voilà, c'est souvent comme ça qu'on commence dans le microcosme européen, et c'est plus intéressant aussi. Alors, mon analyse, elle est à la fois partielle et partielle. Alors, partielle, pourquoi ? Parce que j'aurais pu mettre aussi en perspective d'autres arrêts, d'autres domaines, comme tout ce qui relève de la coordination des régimes de sécurité sociale. On n'aurait vraiment pas eu le temps aujourd'hui. Et partielle, ou en tout cas difficilement impartielle sur le sujet, parce que même si j'essaie de prendre plus de distance vis-à-vis de la partialité venant du service public fédéral de la sécurité sociale, on est encore attaché à certaines valeurs. Alors, ça c'était les avertissements. Alors maintenant, suivons le lapin blanc, puisqu'on n'a pas beaucoup le temps pour envisager toutes ces matières. Je vais aborder donc les débats sur les services sociaux d'intérêt général. Comment ces services qui concerne à la fois la sécurité sociale obligatoire, complémentaire, mais aussi tous les services à la personne, comment c'est envisagé au regard des règles économiques du droit de l'Union européenne. Et puis, on va essayer d'avoir quelques remarques conclusives et questionnements qu'on partagera, et dont j'espère aussi entendre de votre part des choses intéressantes. Alors, tout d'abord, ça fait plusieurs années que je suis occupé sur ce dossier et en fait je dois faire une veille sur l'impact des règles économiques sur la protection sociale. Et il y a beaucoup de tensions sur ce dossier et le dialogue n'est vraiment pas facile au niveau européen, tant avec la Commission qu'au sein même du Conseil qu'avec le Parlement. Et donc c'est assez difficile. Et quelque chose qui vient un peu témoigner aussi de ces tensions, c'est une affaire qui a fait un petit peu le bruit dans le microcosme européen, qui est celle de l'article que Mediapart avait fait en octobre 2012, où les gros titres, la Commission, Bruxelles veut privatiser la sécurité sociale dans le cadre des marchés publics. Donc il y avait encore en cours la proposition de réforme de la directive sur les marchés publics. Et donc moi j'avais fait une analyse et j'avais vu que les services de sécurité sociale obligatoire étaient dans le scope, dans le champ d'application de la directive, dans une annexe très spécifique. Donc c'était bien services de sécurité sociale obligatoire. Donc je fais une note pour le Comité européen de protection sociale, on avertit nos collègues de l'ARP et tout d'un coup Mediapart a été saisi de cette note et publie un article. Voilà, c'est assez étonnant. Toujours est-il que voilà, le commissaire Barnier était très fâché d'avoir entendu ces titres. Et donc voilà, il y a eu des discussions qui ont lieu là autour, et ça témoigne encore une fois des tensions qui existent là autour. Pour moi, c'est aussi une question par rapport à l'intégration européenne qu'on veut. Comment aujourd'hui, dans cette intégration européenne qui est négative, selon moi, dans le sens où il n'y a pas on est toujours en creux au niveau de la protection sociale, au niveau des questions sociales, à être exempté, à demander des dérogations. Comment dans cette intégration négative est encore aujourd'hui perçue de la sécurité sociale ? C'est encore une grosse question, peut-être que tu pourras peut-être essayer d'esquisser. Et ça fait aussi, par rapport à l'actualité, écho aux travaux très laborieux que nous avons au niveau du Comité européen de protection sociale. Alors il y a dans les traités le traité qui institue le Comité européen de protection sociale, où ce sont des États membres et la Commission qui siègent et qui se réunissent sur des questions relatives à la protection sociale, à la sécu, aux services sociaux. Et actuellement, il y a un groupe de travail dans lequel je siège pour la Belgique et où on a vraiment beaucoup de difficultés à ne fût-ce que parler de ces sujets, à avoir des experts qui ont du répondant sur ce sujet. Donc c'est très très laborieux. Alors, comme je voulais aussi faire une petite... On ne voit pas très bien parce qu'apparemment le passage sur Mac ne passe pas. Mais ce que je voulais faire comprendre avec ce schéma, c'est que la sécurité sociale est un peu le noyau de cette protection sociale, mais qu'on a aussi toute une série d'autres services qui, même s'ils ne relèvent pas de la sécu, relèvent de la protection sociale. On a le logement social, on a les hôpitaux, on a les services à la personne, on a tous les services d'insertion socio-professionnelle. Et donc, même si aujourd'hui, je vais faire un focus sur la sécu, il ne faut pas oublier qu'il y a toute une série d'autres services périphériques, je dirais, à la sécu, mais qui sont aujourd'hui aussi impactés de manière beaucoup plus directe, parce que considérés de manière beaucoup plus rapidement de nature économique, par les règles de droit de l'Union européenne. Alors, comme c'est aussi organisé par le département de droit public, je me sens quand même obligé de faire un petit détour dans le débat beaucoup plus large qui est celui du service public en Europe, du rôle que les services d'intérêt général jouent dans la construction européenne. Alors, je vais d'abord aborder sur le fait de pourquoi ce débat a surgi. En fait, il y a deux éléments. Tout d'abord, il y a des concepts très différents de services publics en Europe. Ça, c'est le premier facteur d'émergence du débat. Et le deuxième facteur d'émergence du débat, c'est le fait qu'il y ait des références multiples des droits européens au concept de service public. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Donc, différents concepts de service public. Donc, d'abord, le concept en France, donc le droit français, c'est quand même structuré autour du concept de service public. Tout le droit administratif au niveau de la compétence, au niveau aussi de pouvoir identifier les prérogatives de service public se sont centrés sur la notion de service public, même si on peut faire une petite nuance avec des services publics industriels et commerciaux pour lesquels il y avait déjà une réalité économique. On a aussi des pays sous influence romano-latine, donc Belgique, Italie, Espagne, Portugal et Allemagne, pour lesquels le concept de service public est très influent dans leur droit, mais qui n'intègre pas spécialement la notion de service public de manière structurante, je vais dire. Par exemple, en Allemagne, on a les Daseinvorsorge, qui sont en fait un service public pour le bien-être de la population. Et il est quand même intéressant de noter qu'on a, dès le départ, une petite opposition entre le concept allemand et le concept français de service public, parce que la doctrine de service public française s'est créée en partie en réaction à la doctrine allemande qui, elle, se situe plus au niveau de la notion de puissance publique plutôt que service public. Et ce ne sera pas anodin aussi vis-à-vis des débats européens qu'on va avoir là-dessus. Alors, il y a un troisième type de catégorie sur la notion de service public. On a tout ce qui relève des pays de la common law, donc le Royaume-Uni et tous les États périphériques qui adhèrent au principe de la common law, où l'idée de service public est rattachée à l'idée plutôt de fonction publique. Et ce n'est pas du tout un concept structurant de l'ordre administratif du pays en question. Et alors, on a enfin les États nordiques et autres États, qui étaient anciennement sous la coupole de l'Union soviétique, où justement on a une double tendance. La première qui est celle du rejet de la notion de service public, parce qu'évidemment ça fait penser à tout, à un moment donné tout était État dans ces États-là, donc voilà, il y a une sorte de rejet. Et une deuxième tendance qui est celle de dire, mais que fait-on Est-ce qu'on emboîte le pas à la doctrine européenne? Est-ce qu'on s'approprie les concepts européens dans l'ordre juridique national? Alors, donc il faut quand même bien se dire que quand on parle de ces sujets au niveau européen, on a quand même des États qui sont très différents au niveau même du concept de c'est quoi un service public. Et alors quand on rajoute la couche du droit européen avec la notion de service d'intérêt général, de service d'intérêt économique général, c'est un autre élément qui vient complexifier la donne. Alors, je disais, la deuxième émergence du débat, c'était la multiplication du droit européen, la multiplication des référents du droit européen au concept de service public. Alors, tout d'abord, dans le traité de Rome, dès le départ, avec les travaux de Messine, on a des débats qui ont lieu sur voilà, comment faut-il parler du service public. En fait, c'est... Il y a eu ce débat entre délégations françaises, surtout, et délégations allemandes, pour savoir, comment peut-on aborder le sujet dans le traité. Les Français militaient pour avoir la notion de service public, et la délégation allemande n'était pas très chaude. Et en fait, c'est traduit dans les textes par l'article 90, paragraphe 2 du traité de Rome, où on a parlé de service d'intérêt économique général. Donc, c'est dans le chapitre sur la concurrence, sur les aides d'État. Cet article n'a pas changé aujourd'hui non plus dans le traité de Lisbonne. Et donc, c'est de cette manière-là que le concept de service public a été coulé dans le bronze dans le traité de Rome. Alors, avec la relance du marché intérieur, qu'est-ce qui va se passer dans les années 90? C'est là qu'on va commencer à connaître les premières tensions entre le service public et les règles économiques du droit de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que la Commission va s'intéresser de plus en plus à tous ces services qui n'avaient pas été confrontés à ces règles de l'Union européenne, et en particulier le secteur des services. Qui dit service dit aussi service public. Donc ça va être une rencontre... pas toujours amical entre ces services et les règles de l'Union européenne. Et grosso modo, pour caricaturer un petit peu, on va avoir deux tendances. On va avoir la tendance d'abord à la banalisation. On va banaliser l'application des règles économiques du droit de l'Union européenne à ces secteurs. Et la deuxième tendance, qui est celle de vouloir quand même avoir un traitement spécifique. Le service public, les services d'intérêt généraux ne sont pas tout à fait la même chose qu'un service économique classique, et donc on demande un traitement spécifique. Et alors, durant la présidence de Jacques Delors, les États membres vont demander à la Commission d'ouvrir un débat sur le sujet, et on va avoir en fait une première communication de la Commission en 96, qui va être considéré au niveau européen comme le point de départ qui va permettre un peu l'évolution des esprits et des textes sur le sujet des services d'intérêt généraux. Ensuite, on va avoir une consécration, je m'excuse pour le chevauchement des titres, on va avoir une consécration de cette communication dans le traité d'Amsterdam. On va avoir une nouvelle référence aux services d'intérêt général, particulièrement aux services d'intérêt économique général, qui va être aussi tout à fait déconnecté de toute la politique de concurrence. Donc, on est dans l'article 16 du traité, donc plus du tout dans l'article 90, actuellement 106. Cet article 16 va être la première reconnaissance du service public dans le modèle social européen et va en quelque sorte établir une co-responsabilité entre justement le niveau de l'Union et le niveau des États membres sur ces services. Donc, je vous laisse lire. Si vous n'arrivez pas à lire, tout le monde arrive à lire du fond ? c'est un peu difficile. Donc, sans préjudice des articles 53, 86 et 87, donc politique de concurrence, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union, ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union. Donc, c'est important. On souligne déjà ici des éléments de solidarité que portent ces services. Donc, la communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base des principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leur mission. Donc, on a une consécration dans les textes au niveau du traité du service d'intérêt général et de la manière dont ils doivent s'exercer avec cette co-responsabilité. Et on va aller tout doucement, à partir de ces textes, vers une doctrine européenne des services d'intérêt général et même des services sociaux d'intérêt général, puisqu'on va venir tout doucement à notre sujet de la CPI. Alors, on va faire bref, on va d'abord avoir un livre blanc en mai 2004 sur les services d'intérêt général, qui avait pour but justement de faire le point depuis 1996 sur le sujet. Et c'est une étape importante aussi, parce que c'est la première fois qu'on va parler des services sociaux d'intérêt général. Avec le fait aussi que les services de santé étaient agrégés à la notion de services sociaux d'intérêt général. Et où on reconnaissait qu'il fallait quand même un traitement spécifique de ces services. En 2006, on a aussi une communication de la Commission qui est dédiée aux services sociaux d'intérêt général, qui va être vraiment pour moi l'élément fondateur de la doctrine sur les SSIG, qui va être aussi une sorte de renouveau intellectuel sur le sujet. Et par contre, en 2007, soit un an après, là on peut dire que c'est une pause dans la réflexion institutionnelle sur le sujet, puisque la tendance là va être un peu à la banalisation de ces services sociaux, en disant, mais voilà, il y a le traité, les règles européennes actuelles permettent aujourd'hui suffisamment de flexibilité, et je pense que depuis lors, on en est là. Donc il y a bien eu des résolutions du Parlement en 2007, en 2011, des nouvelles communications de la Commission, mais j'estime, à titre personnel, que la réflexion sur le traitement spécifique est en pause depuis lors. Alors, on organise aussi des gros événements qui s'appellent les forums sur les services sociaux d'intérêt général. Donc, il y en a eu un à Lisbonne en 2007, à la demande du Parlement européen, suite à sa résolution. À Paris en 2008 et sous présidence belge en 2010, pour laquelle j'ai organisé ce forum et qui était aussi une sorte de relance un petit peu des discussions, puisque ça permet de cristalliser les discussions, de faire appel aux stakeholders, de parler au niveau européen de ces sujets, d'avoir un débat public, puisque ce n'est pas, comme je vous l'ai dit, toujours évident avec les tensions qui existent au niveau institutionnel. Alors, toutes ces communications, qu'est-ce qu'elles auront permis en fin de compte? Elles auront permis, selon moi, de créer un peu une doctrine de ce qu'est un service social d'intérêt général. Et c'est quoi un SSIG? C'est à la fois les régimes légaux et complémentaires de sécurité sociale, d'une part, et d'autre part, ce sont tous les services sociaux d'aide à la personne. Et donc là, il y a toute une liste à la Prévert dans la communication de 2006. Où on va des services pour personnes, d'aide aux personnes en difficulté sur le plan du logement, à l'aide aux toxicomanes, à la réinsertion, même à certains services d'éducation. Donc, beaucoup de services qui sont directement prestés à la personne. Alors, comment aujourd'hui le droit européen va traiter la Sécu? Il faut, encore une fois, désolé, mais revenir au texte fondateur du traité. Alors, je ne vais pas revenir sur l'article 106, paragraphe 2, puisque c'est le même article 90 du traité qu'on venait de voir par rapport au fait qu'il y a une dérogation possible de l'application des règles sur la concurrence et sur le marché intérieur pour tout ce qui est service d'intérêt économique général. Et il y a en fait, depuis le traité de Lisbonne, un article 14, qui est en fait la suite de l'article 16 que nous venons de voir, qui gérait les co-responsabilités, et où on a une nouveauté, donc en petit, c'est ce qui était la même chose que l'article 16, et on a une nouveauté. Cet article 14 est en fait une nouvelle base juridique pour une réglementation spécifique du service d'intérêt économique général. Donc, le Conseil et le Parlement statuent par voie de règlement, conformément à la procédure législative ordinaire, pour établir des principes et des conditions, justement, de fonctionnement, de financement de tous ces services d'intérêt économique général. Donc, c'est depuis Lisbonne, on a une base juridique pour avoir un règlement sur les SIEG. Alors, oui, mais la sécu dans tout ça, la sécurité sociale peut être considérée de nature économique et donc peut être un service d'intérêt économique général dans certains cas. Sur le protocole additionnel, je connais déjà un peu les vues de Dimitri qui va tirer à boulet rouge sur ce protocole additionnel, mais on a un protocole additionnel aussi qui a la même valeur que le traité lui-même et qui va un peu aussi couler dans le bronze la jurisprudence et la doctrine de la Commission pour dire que, voilà, il y a les services d'intérêt économique général, mais il y a aussi les services d'intérêt général non économique. Parce que ça, c'est vraiment la summa divisio qui est très importante à retenir pour l'application des règles au niveau de l'Union européenne, c'est qu'est-ce qui est économique et qu'est-ce qui est non économique. Et le traité de Lisbonne, encore une fois, va justement dire que tout ce qui est non économique ne relève pas de l'Union européenne, ne relève pas du traité, ne relève pas du droit dérivé. C'est très important pour plus tard quand on va aborder la question des marchés publics. Alors voilà, on a un article 2 qui précise, voilà, les dispositions des traités ne portent en aucune matière atteinte à la compétence des États membres pour fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt général. Encore faut-il savoir, est-ce qu'il y a encore moyen aujourd'hui d'organiser des services publics avec les contraintes budgétaires. Alors, premier traitement qu'on va aborder, c'est particulièrement sur les aides d'État. Alors, de prime abord, quand on parle des aides d'État, les publicistes, à mon avis, se disent « Oui, mais ça, c'est pas pour nous, ça sonne entreprise, c'est le régime d'interdiction, on ne peut pas aider les entreprises, ça c'est normal, mais ça ne s'applique pas aux services publics en tant que tels. » Eh bien non, je suis désolé de vous décevoir, mais en fait, sous le vocable aide d'État, qu'est-ce qu'il faut en réalité percevoir? C'est en fait financement de missions de services publics, de missions de services d'intérêt économique général. Alors, évidemment, il faut que l'activité en question soit considérée comme économique pour justement appliquer tout cela. Et la notion d'activité économique est interprétée de manière très très large par la Cour de justice, au niveau de la politique de concurrence des aides d'État, c'est en fait l'échange de biens et de services sur un marché donné. Et donc, en gros, beaucoup, beaucoup de choses sont économiques. Le logement social est considéré aujourd'hui comme une activité économique. Mais on finance le logement social, on donne des subventions au logement social. Mais est-ce que ces subventions sont compatibles ou pas avec les aides d'État ? C'est toute la question, justement, de la compensation de services publics. Et tout part, en fait, d'un bus allemand. Et donc là, on commence déjà un petit peu à rentrer de l'autre côté du miroir, où on a un peu quand même cet élément d'étrangeté par rapport au monde qu'on connaît dans le service public. Tout part d'un bus allemand. C'est l'histoire de la Realtmark. C'est un Lander allemand qui va financer une société de bus privée pour le ramassage scolaire. Donc, c'est un grand lender. Il faut aller chercher tous les enfants aux quatre coins du lender. Et on demande à un bus, à une société privée, sans marché public, de s'occuper de cette mission, d'aller chercher les enfants. Alors ici, on commence quand même à sentir, ah oui, il y a quand même une question importante du service public, c'est quand même l'accessibilité à l'école des enfants qui est en jeu. On va chercher les enfants à l'école, donc on mandate une société de bus, et il y a une société concurrente qui va porter plainte en disant, mais écoutez, moi aussi je pourrais bien le faire, il n'y a pas eu de concurrence, il n'y a pas eu de marché public, et le financement que vous donnez à Altmark, en fait, c'est une aide d'État illégale. Et alors, confronté à cette argumentation, la Cour va donner quatre critères pour dire quand il y a aide et quand il n'y a pas aide d'État. Alors, Suite à cet arrêt, la Commission, je vais vous expliquer après les quatre conditions pour être safe d'un point de vue des conditions Altmark, mais suite à cet arrêt, la Commission va prendre toute une série une batterie de mesures, un paquet qui s'appelait Monty Cruz ou le paquet SIEG ou le paquet Altmark, une décision pour justement exempter de notification, de peur de recevoir plein d'aides, parce qu'il faut savoir que dans le domaine des aides d'État, il faut notifier à la Commission quand il y a une aide d'État, qu'on considère qu'il va y avoir une aide d'État, l'État doit notifier à la Commission pour voir si l'aide d'État est légale ou pas, et la Commission estime après si elle est légale ou pas. Donc pour éviter que la Commission ne reçoive des dizaines de milliers de notifications de tous les services publics qui financent des bus, qui financent du logement social, qui financent des hôpitaux, eh bien on va prendre une décision pour dire, mais voilà, dans ces conditions-là, vous êtes exempté de notification. Ne nous notifiez pas à nous, Commission, toute une série d'aides, de subventions que vous faites. Et puis encore un encadrement. En fait, c'est un système en cascade. Alors, pour revenir aux catégories principielles, donc, quand vous êtes non économique, vous n'êtes pas concerné par les aides d'État, parce que voilà, ce n'est pas une activité économique. Si vous êtes une entreprise, les aides d'État sont illégales avec des exceptions. Mais si vous êtes un service d'intérêt économique général, les aides sont possibles, mais il faut suivre tout le paquet Altmark. Et le principe, quand même, c'est ça reste quand même une aide d'intérêt. Alors, quand on parle de compensation de services publics, de quoi on parle? C'est la mission de service public. C'est, par exemple, un tarif social. C'est une couverture territoriale qui est imposée. Là, par exemple, dans le Länder allemand, c'était, voilà, il faut aller chercher tous les enfants partout où ils habitent, il faut faire tout le territoire. Ce sont des heures d'ouverture. Donc, toute une série de questions qui sont d'ordre général, qui sont sur l'accessibilité, sur la continuité du service public. Et c'est aussi, ce qu'a un peu paraphrasé la Cour, ce que l'entité ne ferait pas compte tenu de son strict intérêt commercial. Alors, vous voyez, donc, c'est la compensation. Et donc, qu'est-ce qui devient central maintenant au niveau du subventionnement? Eh bien, c'est que cette compensation ne serve que la mission publique, la mission d'intérêt général. Donc, l'argent ne doit servir qu'à la mission d'intérêt général. Sinon, vous faussez la concurrence. Sinon, si A utilise l'argent pour autre chose que ce à quoi il était destiné, que la mission d'intérêt général, eh bien, on peut dire, mais attendez, vous utilisez de l'argent pour être sur mon marché, il y a une concurrence faussée. Donc, c'est vraiment le financement croisé qui est interdit et sur lequel il y a des sueurs froides actuellement. Alors, tout ça, c'est un système en cascade. Alors, d'abord, on voit si on est dans Altmark, si on est safe du point de vue des critères Altmark. Ensuite, si on n'est pas safe, c'est une aide d'État. Si c'est une aide d'État, alors on voit au niveau de la décision si on peut être exempté avec une série de conditions. Donc on ne doit pas notifier dans ces conditions-là. Et si on n'est toujours pas safe du point de vue de la décision, alors il y a un encadrement. Alors, nouveauté aujourd'hui, puisque ce paquet Monty Cruz est devenu un paquet Almunia du commissaire éponyme. Les commissaires donnent leur nom comme ça au paquet. C'est un peu bizarre. Voilà, mais toujours est-il qu'il y a aussi un nouveau règlement sur les services d'intérêt économique général où on considère qu'on est safe si on donne des aides de moins de 500 000 euros sur 3 exercices fiscaux. Mais il faut quand même savoir que 500 000 euros pour un service social, c'est, sur 3 ans, c'est quand même pas grand-chose. Hein. Vous avez payé 5-6 salariés, et puis sur 3 ans, et puis c'est terminé. Donc, voilà, on peut se poser la question de combien de services d'intérêt économique général ça couvre exactement. Alors, l'arrêt Altmark qui nous dit, mais voilà, pour considérer qu'il n'y a pas aide d'État, il faut que 4 conditions soient respectées. La première condition, c'est que la mission de service public doit être clairement définie. Il faut que vraiment on spécifie bien, voilà, ceci est une mission de service public, que ce soit dans un texte clair. La compensation, donc le montant, l'argent, le budget, doit être calculé préalablement. Il ne faut pas de surcompensation, donc il faut vraiment que l'argent qu'on vous octroie doit vraiment servir qu'à la mission et pas à autre chose, donc vous ne pouvez pas avoir un montant supérieur à ce qu'exigerait la mission en question. Et le quatrième altmark sur lequel tout le monde s'arrache les cheveux, c'est si vous n'avez pas attribué votre mission de service public par un marché public, comment calculer justement la compensation? Eh bien, il faut le calculer sur la base des coûts qu'aurait eu une entreprise moyenne, bien gérée, adéquatement équipée, etc. Donc, une entreprise qui, en gros, n'existe pas. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est très difficile de remplir toutes les conditions de l'arrêt Altmark. Et la Commission le sait bien, et c'est pour ça qu'elle a pris une décision pour dire, mais cet arrêt Altmark, on va voir s'il est vraiment applicable ou pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va avoir cette décision. Donc, on ne doit pas notifier. C'est une aide d'État, mais elle est compatible si vous remplissez ces critères-là. Et quand on voit, en fait, on reparaphrase un petit peu l'arrêt Altmark. Donc, il faut un mandat. Donc, c'est la mission de service public qui est clairement définie, où on précise la nature, la durée de l'obligation de service public, éventuellement l'entreprise et le territoire concerné, la nature du droit exclusif ou spécial qui est octroyé, la description du mécanisme de compensation, comment justement on octroie, comment est calculée cette compensation, et s'il y a une surcompensation, comment on la récupère. Donc il faut tout ça dans le mandat. La compensation doit évidemment être calculée préalablement, et il faut aussi contrôler la surcompensation. Alors ce sont des textes qui existent depuis 2005, donc là c'est la décision révisée en 2011, mais je doute que ce soit très appliqué dans la plupart des secteurs. Alors, on en vient tout doucement à nos services sociaux, d'intérêt général. Alors, on est exempté de notification, et ça c'est tel quel dans la décision qui exempte de notification, et donc, petite attention Daniel sur comment on design un petit peu les politiques du welfare. Donc, les compensations octroyées à des hôpitaux fournissant des soins médicaux, des soins médicaux notamment s'il y a lieu des services d'urgence, donc ça c'est exempté si on remplit toutes les conditions. Les compensations octroyées pour des services sociaux, pour des services répondant à des besoins sociaux concernant les soins de santé et de longue durée, la garde d'enfants, l'accès et la réinsertion sur le marché du travail, le logement social et les soins et l'inclusion sociale des groupes vulnérables. Donc, voilà, ces services sociaux-là sont exemptés de notification. Ça veut dire aussi qu'ils sont considérés de nature économique à partir du moment où on remplit toutes les conditions qu'on vient de voir. Alors moi, j'ai quand même une petite réflexion sur le fait que 90% des services, plus de 90% des services sociaux en Europe reçoivent des subventions publiques. Il faudrait avoir aujourd'hui, que dans tous les États, on s'intéresse sérieusement à cette question de l'exemption et de savoir si on remplit ou pas les conditions de cette exemption. Et je pense que ce n'est pas actuellement le cas. Alors il faut aussi un acte de mandatement de 10 ans, donc ça c'est le principe, et ça pose des questions, puisque quand on institue un service public, même s'il y a des tâches de nature économique, on ne l'institue pas pour 10 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura une mise en concurrence qui sera nécessaire après ces 10 ans. Alors, donc je ne vais pas revenir sur chaque point là-dessus, mais vous allez dire, mais la Sécu là-dedans, pourquoi nous au départ on est venu un peu pour parler de Sécu, vous nous parlez de ces aides d'État, de ces exemptions et la sécurité sociale. Et en fait, la Commission va rappeler la jurisprudence et sa doctrine dans sa communication de manière très très claire, parce que qu'est-ce qui va déterminer le fait de savoir si la Sécu, et la Sécu ça veut rien dire, mais si des activités au sein même de la sécurité sociale sont de nature économique ou pas, c'est le degré de solidarité qui est présent dans le système. Alors, je sais qu'il y a le juge Mormont qui est là, il y a aussi ma collègue Mathilde qui s'occupe des contestations en matière de cotisation d'indépendants, et ça a une répercussion directe, puisque les plaideurs ce qu'ils font, ben, ils disent, écoutez, moi, je ne veux pas payer mes cotisations de sécurité sociale, par exemple au régime d'indépendant, parce que je considère qu'il y a un monopole, qu'il y a une aide d'État illégale, et qu'en fait, c'est une activité de nature économique, et que dès lors, il faut ouvrir le marché, et qu'il y a, une situation monopolistique, et je ne vois pas pourquoi, moi, je devrais payer cette somme. Et donc, c'est le cas dans l'arrêt CISAL, c'est le cas dans Poussé-Pistre, et donc la Cour a déjà été confrontée au fait de savoir, mais tiens, à partir de quand on a une activité économique ou pas. Alors, on est en présence d'une activité non économique et donc d'un régime de solidarité, et quand justement on a un caractère obligatoire, donc lorsque l'affiliation à un régime de sécurité sociale est obligatoire, lorsque l'objectif social est exclusivement social, lorsqu'il n'y a pas de but lucratif, lorsque les prestations versées sont indépendantes du montant des cotisations, lorsque les prestations versées sont proportionnelles ou pas au niveau de revenu de l'assuré, au fait que le régime est soumis ou non au contrôle de l'État, donc toute une série de critères, une sorte de méthode indiciaire pour considérer qu'on est en présence ou non d'une activité économique. Alors, c'est la jurisprudence Poussé-Pistre, CISAL, Frescott, Kapner, et j'en passe. Tandis que la Sécu va être considérée comme économique à partir du moment où on est dans des régimes de capitalisation, lorsqu'on a un but lucratif, ou lorsque le versement de prestations sont destinés à compléter celle d'un régime de base. Donc, on sent bien, tout ce qui est régime complémentaire de sécurité sociale est de nature économique, régime de base est fondé plutôt sur la solidarité, donc non économique. Donc voilà, on a quand même aujourd'hui des logiques économiques au sein même de la sécurité sociale. Et pour moi, alors moins de 10 minutes, ça va être un peu chaud, mais on est en face quand même face à un changement de paradigme, où quand même la préoccupation première est celle de l'atteinte au principe de concurrence et dès lors à un opérateur potentiel, et plus du tout sur l'effectivité des droits sociaux qui sont octroyés dans cette logique-là. Est-ce que le canevas des règles, tel que je les ai expliquées jusqu'à présent, est-ce qu'il est trop restrictif ou pas? Est-ce que, pour finir, on ne devrait pas plutôt avoir des conditions économiques et financières comme le veut l'article 14? Il faut aussi dire qu'il y a des extensions sur cette interprétation de Altmark. Toutes les situations du in-house, par exemple, sont concernées aussi par Altmark. Ce n'est pas parce que vous êtes en in-house, que vous êtes un pur service public, que vous ne devez pas appliquer Altmark, puisque c'est la nature même de l'activité qui compte. Donc, c'est la nature économique qui va être déterminante pour savoir si vous devez ou pas appliquer Altmark. Pas si vous avez délégué. Même si vous n'avez pas délégué, ça s'appliquera aussi. Et alors, on a quand même une logique pour moi qui est un peu cassée, qui est la logique quand même de la sécurité sociale, qui est quand même une logique systémique. On a des systèmes de sécurité sociale et pas des services de sécurité sociale. Et c'est quand même important parce que on casse un petit peu cette logique du système, et c'est clair, même en Belgique, on a des partenariats publics-privés avec toute une série d'institutions. Que ce soit les mutuelles, que ce soit les assureurs, que ce soit d'autres institutions ou organismes, par exemple même les mutuelles, où on a du partenariat même public-privé. Mais voilà, on est dans un système. Et donc, cette logique du service est assez préoccupante. Alors, sur le traitement au niveau de la directive service ou la libre prestation de service, quand même, souligner l'attention sur deux arrêts qui sont souvent perdus de vue, c'est l'arrêt Frescott et Kapner, où, pour moi, ça vient, en tout cas, cette jurisprudence est plus dangereuse encore que les aides d'État, dans la mesure où on considère que c'est seulement où la couverture est minimale qu'on peut considérer qu'il n'y a pas atteinte au principe de libre prestation de service. Donc, en gros, l'arrêt Frescott, ça concerne l'affiliation à un régime d'assurance grec obligatoire pour les indépendants. Alors on dit, oui, c'est non économique, etc. Donc on passe toute une série de critères en vue sur le volet concurrence. Et puis, il y a quand même une argumentation qui est faite sur la libre prestation de services et la liberté d'établissement. Et là, on se dit, dans Kettner, on va faire le test de proportionnalité et on va voir si c'est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général, si c'est non discriminatoire, si c'est proportionnel. Et donc, si c'est proportionnel, si ça va, si c'est nécessaire, si ça ne va pas au-delà de ce que le régime prévoit. Merci,
Président. Il n'y a pas de mal.
Alors, la couverture minimale, c'est un élément qui a été pris en compte pour considérer que la mesure est proportionnelle. Donc ça, ça laisse quand même... c'est un élément à réflexion, puisque s'il faut avoir une sécu minimale pour que des prestataires privés, assurantiels, puissent pénétrer le marché, est-ce qu'on est encore justement dans la répartition des compétences entre États membres et Union européenne ? C'est un cas à questionner. Alors bon, il y a quelques verrous, quelques sauvegardes qu'on a essayé de mettre dans la directive service, notamment à l'article 1er, qu'elle n'affecte pas la législation en matière de sécurité sociale, ou l'article 2 de J, où on exclut une partie des services sociaux. Je vais passer sur la liberté d'établissement, sur les clauses noires et les clauses grises en matière de directive service. On pourra en revenir là-dessus si vous avez des questions. Pour venir plutôt sur la question des marchés publics, qui est une question très actuelle puisqu'elle est actuellement débattue au sein du Conseil. Alors je ne vais pas vous relever des grands secrets d'État, mais le siège en tout cas de la matière, c'est les articles 74 et suivants de la proposition actuelle, où justement avant on avait un régime A, un régime B sur les marchés publics. Et aujourd'hui, on a services prioritaires et non prioritaires. Et dans les non prioritaires, on a les services sociaux et autres services spécifiques qui sont énumérés à l'annexe 16. Donc, à partir du moment où on est au-delà d'un certain seuil, il faut faire un marché public pour ces services. Alors, il faut faire un marché public pour autant qu'on est dans le cadre d'un marché public. C'est-à-dire que pour autant qu'on ait la définition des marchés publics qui soit justement réunie. Donc, c'est-à-dire un contrat onéreux entre une autorité adjudicatrice et un prestataire. Mais pour moi, ça peut être très vite réuni quand on interprète cela, notamment, je pense qu'il y a un collègue du budget qui est là, quand on voit certaines interprétations au niveau du SPF budget là-dessus. Est-ce qu'on est ou pas directement dans cette liste ? Alors, quand on voit justement qu'est-ce qu'il y a dans cette annexe, ben, il y a en fait toute une série de services. Donc, on a tous les services sociaux et sanitaires, on a les services administratifs, éducatifs, culturels et soins de santé, et on a aussi, enfin, la pomme de discorde qu'on a eue, les services de sécurité sociale obligatoires. Et encore une fois, ça casse un peu la logique du système par rapport aux services, puisque après, quand on va voir de manière plus détaillée qu'est-ce que recoupe cette catégorie, ben, en fait, ce sont tous les services de paiement, d'allocation. On voit aussi tous les services de prestation et une autre catégorie aussi, ce sont tous les services fournis par les syndicats, les services religieux. Alors, je n'ai pas encore vu beaucoup de marchés publics avec les services religieux. Je me demande comment on pondère ça, le cahier de charges qui doit faire ça. il y a une pluralité, ça on peut le dire. Et donc, voilà. Et qu'est-ce qu'impose, en fait, qu'est-ce qu'impose actuellement la proposition directive ? C'est un régime light pour tout ce qui est sécurité sociale, pour tout ce qui est services de sécurité sociale obligatoire, pour autant qu'on ait fait un marché public. Et ça, j'insiste là-dessus, parce que c'est un verrou en tant que tel. Parce que la directive, et là, on a encore mis un autre verrou sur tout ce qui était droits exclusifs et spéciaux, puisque même si au départ elle n'était pas, elle a été réintroduite suite au débat, c'est d'avoir une disposition que pour tous les droits spéciaux et exclusifs octroyés réglementairement, eh bien, on soit out of scope, point de vue de la directive, et donc on ne doit pas appliquer les marchés publics. Et ça, je pense que quand même, c'est une sauvegarde par rapport à toute une série de services de sécurité sociale obligatoires. Et il faut le dire aussi clairement, c'est une demande de UK d'avoir ça, puisque c'est quand même le Royaume-Uni qui a demandé d'avoir cette extension. Alors, on impose quoi? C'est aux articles 75 et 76. On impose la publication d'un avis préalable à marché pour justement avoir des opérateurs qui se manifestent, et puis une publication ex post d'attribution de marché. Et il faut aussi notifier à la commission quand on fait ce type de marché. Et alors, il y a aussi l'article 76 qui impose alors la mise en place de procédures adaptées pour remplir les principes généraux de transparence, d'égalité et ici aussi de spécificité, ces nouveautés pour ces services. On demande aussi de veiller à la qualité et pas seulement au prix. Alors, réflexion conclusive.
Une minute.
Merci.
Je venais de te le dire.
Mais je le vois maintenant, donc ça part de maintenant. Est-ce que le marché peut s'occuper de la sécurité sociale? Parce que c'est quand même ça le titre. Mais en tout cas, je pense qu'au niveau européen, certains le pensent. Même s'il faut quand même reconnaître aujourd'hui qu'au niveau du droit, on reconnaît en tous les cas la solidarité, vu que pour les services d'intérêt généraux exclusivement sociaux, on considère que ce n'est pas économique. Donc, toute la jurisprudence pousse ses pistes, cisaille, et que la concurrence ne trouve pas à s'appliquer à partir du moment où on a des affiliations obligatoires. Donc ici, la balle est quand même dans le camp des États et aussi dans leur manière de designer leur sécurité sociale. On reconnaît aussi quand même la mission de service public dans les textes, mais est-ce que maintenant le carcan des textes, est-ce qu'il est trop étroit, est-ce qu'il est trop serré? C'est à voir. On n'a pas beaucoup de jurisprudence là-dessus. On a justement un arrêt de la Cour sur les hôpitaux Iris où on a cassé la décision de la Commission pour dire que pour les hôpitaux Iris, il va falloir que la Commission envisage la procédure en infraction pour aide d'État. Mais selon moi, quand même, on banalise de plus en plus l'application du droit européen à ses services, et la dernière en date, c'est vraiment avec les marchés publics, où on voit que on a même une contradiction in terminis aujourd'hui dans les textes, où, comme je vous l'avais expliqué, tout ce qui était service de sécurité sociale obligatoire, de par l'affiliation obligatoire, est normalement considéré comme non économique, et se retrouve quand même dans les textes sur les marchés publics. Donc pour moi ici, on a un peu une incohérence même au niveau des concepts de ce qui est économique et non économique, puisque si l'affiliation est obligatoire, si on a des services obligatoires de sécurité sociale, par définition, ils sont non économiques. En tout cas, il y a un gros indice du fait qu'ils sont non économiques. Et à partir de là, on peut s'interroger si on respecte encore le protocole additionnel sur l'économique et le non économique. Alors, dernière réflexion. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui avoir des services de sécurité sociale obligatoires? Il faut voir aussi voir la global picture, comme ils disent aussi. C'est-à-dire que dans la gouvernance économique, par exemple, il y a un règlement où on promeut de manière indirecte les régimes de capitalisation. Parce que voilà, là, il n'y a pas de suivi de la trajectoire budgétaire. Mais il n'y a pas la même flexibilité si on passe de capitalisation à répartition. Donc, en degré de solidarité, est-ce qu'on est vraiment dans la neutralité ici? Je ne pense pas. Pour moi, c'est un petit peu aussi demander de jouer au criquet avec des flamants roses et des hérissons, pour revenir à la métaphore d'Alice au pays des merveilles. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Je n'en ai pas encore vu beaucoup dans ces jeux-là. Voilà, donc est-ce qu'on est dans la recommodification aujourd'hui de la Sécu? Voilà, le débat en tout cas, pour moi, reste ouvert.
Merci beaucoup.
Merci à vous.